sur France Inter.
La Palestine est depuis six décennies absence de chez soi et absence à soi. Absence de l'exilé, réfugié, disparu, sorti, débarqué de scène. Absence de l'occupé à sa réalité pourtant visible, mais réduite à l'état de souvenir par l'occupation. Absence du nom aussi, effacé, nié, disparu des cartes de géographie, disparu des lieux avec plus de 400 localités, villes et villages rasés, effacés, pour qu'ils ne puissent plus jamais revenir. Ainsi que le clamait haut et fort, dès les premières années d'existence de l'État d'Israël, Yosef Weitz, directeur du département des terres et forêts du Fonds national juif et grand colonisateur du Fonds devant l'Éternel. Les Palestiniens sont précisément ces « ils » qui ne devaient à aucun prix revenir. Ce soir, dans l'heure bleue, nous recevons Elias Sambar, écrivain, historien, diplomate, mais comme chaque soir, et pour vous Elias, nous allons commencer en musique avec Annie El-Khatib, Calm Down. Elias Sambar, vous êtes à la fois écrivain, poète, traducteur, diplomate. Vous avez écrit de nombreux livres. Il y a eu « Palestinien, la photographie d'une terre et de son peuple » de 1839 à nos jours, « Figure du Palestinien, identité des origines, identité de devenir », un livre important qui était paru chez Gallimard en 2004, « Le dictionnaire amoureux de la Palestine ». Où, mine de rien, vous racontez beaucoup de fragments de votre existence la plus intime, un livre important sur le plan historique et délicieux à lire dans toutes les entrées, y compris les entrées culinaires. D'ailleurs, je pense que nous allons parler cuisine au cours de cette émission. Le rescapé et l'exil, un dialogue avec Stéphane Hessel. La Palestine expliquée à tout le monde. Et il se trouve que depuis deux jours, eh bien, vous venez d'inaugurer une préfiguration d'un musée qui s'intitule « Pour un musée en Palestine », une préfiguration donc d'une exposition qui a déjà lieu depuis deux jours à Paris, à l'Institut du Monde Arabe. Nous allons parler de la Palestine, de son histoire, de son présent, bien évidemment, mais aussi de vous, Elias Sambar. Dans ce dictionnaire amoureux de la Palestine, voici ce que vous écrivez. « J'ai le souvenir, il remonte à la prime enfance, d'avoir été profondément marqué, non par une conscience de la cause palestinienne, mais par mon profond désarroi face à la tristesse de mon père, confronté à sa réalité nouvelle d'exilé. J'entends encore, il demeure gravé au plus profond de moi, ces mots le jour où je lui demandais pourquoi il aimait tellement notre ville de Haïfa. Là-bas, tout le monde me connaissait. Cette phrase se confondit pour moi avec le sentiment d'être étranger, un étranger. Vous sentez-vous, aujourd'hui en France, Elias Sambar, encore un étranger, alors que vous y viviez depuis maintenant des décennies?
Oui, et paradoxalement, non. Non, dans la mesure où, dans cette tristesse de mon père, il y avait également le profond sentiment que son avenir était désormais derrière lui, que c'était joué pour sa génération et sa fin, c'est-à-dire son décès, était tout à fait à l'image un peu de ce sentiment en 67, en juin 67. Non, je crois que je fais partie d'une minorité de Palestiniens. Beaucoup sont dans une nostalgie permanente, hein, dans une espèce de peine faite pétrie de souvenirs, de souvenirs très charnels, hein, qu'on retrouve un peu sans qu'il ait jamais, il a jamais été. Mais vous avez un écho de ce type de nostalgie dans la poésie de Darwish, c'est-à-dire la terre, les plantes, les nuages, les pierres, les rochers. Donc tout ce qui faisait un peu le terreau de ce peuple. Mais comme Darwish, comme d'autres amis aussi, nous avons eu la chance, mais il a fallu à un moment donné avoir le courage de le faire. Je le dis en toute modestie, mais il fallait avoir le courage de le faire, c'est-à-dire à un moment donné, ayant perdu votre monde, vous aviez la possibilité de découvrir le monde. Et donc, de vous mettre un peu en circulation, en mouvement, à travers la planète. Ça a été une expérience exceptionnelle. Exceptionnelle parce qu'elle a permis de sortir de la peine, si je peux utiliser l'expression, par le haut. Et de se retrouver, c'est une discussion que nous avons beaucoup, en fait, tous ces amis qui sont un peu dans cette même situation, de nous retrouver beaucoup plus par rapport avec des relations de tendresse par rapport à ce qui s'est perdu plutôt qu'à des relations de nostalgie. Donc nous sommes un peu maintenant dans le mouvement. Et c'est pour cela, d'ailleurs, je l'expliquais il y a deux jours lors d'un entretien, que quand nous avons préparé l'anthologie des poèmes de Darwish chez Gallimard...
Je rappelle que vous êtes le traducteur de Mahmoud,
oui,
Darwish.
Le titre que j'avais proposé moi-même à Mahmoud, d'ailleurs, était « La terre nous est étroite ». C'est-à-dire, tout d'un coup, ce petit pays nous propulsait à l'échelle de la planète. Et donc, nous sommes ouverts au monde. Ça n'était pas facile. Je vais vous dire pourquoi. Parce que souvent, les exilés ont peur, s'ils s'ouvrent, de se dissoudre et de mettre un trait, si vous voulez, une croix, sur ce qu'ils ont perdu et ce qu'ils vivent donc parfois ces ouvertures, ce qu'il faut, mais c'est comme ça qu'ils le vivent, comme des formes de reniement en réalité d'eux-mêmes. Alors que ce que nous avons découvert, et c'est également des discussions que nous avons beaucoup entre nous, ce que nous avons découvert, c'est que nous n'avons jamais été autant nous-mêmes que depuis que nous nous sommes ouverts. Et qu'il y a eu le risque, et en même temps certainement l'attrait, il y a eu quand même quelque chose qui nous a tiré, de nous jeter à l'eau et de nous ouvrir. Moi, j'ai toujours été actif par rapport aux droits de la Palestine. Quand j'étais petit, ça a commencé par des souvenirs d'un jardin et d'une belle jument. C'est comme ça. C'est pour ça. C'était ça pour moi. Ensuite, ça a été une période nationaliste. Et après, ça a été une période de quête du droit, qui n'était plus une période nationaliste du tout, mais juste l'envie de l'équité, hein, de la justice. Et je n'ai jamais arrêté d'être actif dans ces registres, mais en même temps, aujourd'hui, je voudrais rentrer chez moi de par ma volonté et ressortir de par ma volonté, car à un moment donné, nous avons été mis à la porte. Le traumatisme est là, non pas dans le fait, d'ailleurs beaucoup de quand vous êtes dans une situation normale, personne ne peut vous interdire, vous empêcher de circuler dans le monde, mais vous le faites volontairement et non pas parce qu'on vous a mis dehors. Donc voilà un peu aujourd'hui la situation. Donc je n'ai pas du tout cette nostalgie. J'ai une immense tendresse pour ce qui a disparu. J'ai pas envie que ça revienne non plus. Il n'y a pas l'idée quand nous allons revenir, nous allons refaire les mêmes choses. Je trouve ça assez quand même assez lourd, pour ne pas dire morbide. C'est très important pour moi d'avoir fait ce choix d'une force de vie avant tout. Et nous avons été certains à l'avoir fait. Ça n'a pas été facile parce que nous sommes quand même privilégiés. Darwish me disait, tu sais, l'exil aura été très généreux avec toi et moi. C'est vrai. Mais il l'a pas été avec tout le monde. Et pour beaucoup de centaines de milliers de personnes qui sont encore dans le bannissement, dans la négation d'existence et dans des conditions matérielles, il faut le dire, également très difficiles. On peut pas faire juste venir de haut et leur dire vous n'avez qu'à vous ouvrir au monde. C'est très compliqué pour eux. Nous avons eu cette chance. Nous aurions pu ne pas la saisir. Mais nous l'avons saisie, cette chance. Voilà, c'est un peu comme ça aujourd'hui mon rapport.
Vous, Elias Samba, vous aviez 15 mois quand vous avez été obligé de quitter la Palestine pour vous réfugier avec vos parents donc au Liban. Vous avez vécu votre enfance, votre adolescence, puis ensuite vous êtes allé à Paris, vous avez commencé des études de philosophie, vous avez été écouté des grands philosophes, dont un qui est devenu votre ami très proche, qui inspire, je crois, à la fois votre manière de voir le monde, mais aussi de réfléchir politiquement, au sens le plus noble de la politique. Il s'appelle Gilles Deleuze. Nous allons l'écouter dans son abécédaire, à l'entrée T, comme tennis.
Qu'est-ce que j'aimais, le football? Oui, je crois que c'est tout, le football et le tennis. Oui.
Et tu as joué au tennis?
Ah oui, beaucoup. Jusqu'à la guerre, oui. Moi, je suis une victime de la guerre, là. Oui.
Et qu'est-ce que ça change dans son corps quand on pratique le tennis, quand on pratique un sport, et quand on ne pratique plus après? Il y a des choses qui changent?
Je ne sais pas, non. Enfin, pour moi, pas tellement. J'en faisais pas mon métier. Hein. J'avais quoi? J'avais 14 ans, 39, c'était. J'avais 14 ans, j'ai arrêté le tennis à 14 ans. Bon, c'était pas un drame.
T'es pas un jeune espoir?
Ah, je jouais bien pour 14 ans, je faisais que ça, alors je jouais bien, oui.
C'était classé?
Oh non, 14 ans. C'était un pauvre petit, et puis ça n'avait pas du tout le développement que ça a aujourd'hui, le tennis.
Et t'as pratiqué d'autres sports, la boxe française, je crois, non?
Oh non, j'ai fait un peu de boxe, mais on m'a fait mal, j'ai arrêté tout de suite.
Alors vous aussi, vous avez beaucoup joué au tennis, Elias Samba, mais c'est pas le seul point commun avec Gilles Deleuze.
Non, mais juste une chose. Un autre grand ami avait fait des textes magnifiques sur la relation entre le tennis et le cinéma. C'était Serge Danet. Et non, Gilles a bouleversé ma vie. Il y a pas d'autre terme. Ça peut sembler un peu pompeux au niveau de la forme, mais ça a vraiment bouleversé ma vie. C'est avec Gilles que j'ai appris la quintessence du mouvement. Et la quintessence des lignes qui sont en permanence en circulation dans le monde. Le fait que nous étions également des vecteurs et pas simplement des êtres figés. Et le fait qu'il n'y avait pas de début aux choses, et ça a été une découverte fondamentale pour moi. Les discussions qui m'ont emmené à cet ouvrage que vous citiez tout à l'heure sur les identités, la figure. C'est-à-dire comment construit-on, ou comment se construisent, pardon, pas les figures identitaires, mais sauf que souvent, quand on utilise le terme de figure, on oublie que figure peut vouloir dire une figure de danse, une figure géométrique, un visage, bien sûr, des lignes, et également, on oublie qu'au départ, les cartes de la Terre, les cartes géographiques s'appelaient les figures de la Terre également. Donc on est dans toute cette floraison de lignes en mouvement. Et Gilles a été un ami, je peux le dire malgré la grande différence d'âge, et très très proche et en même temps très drôle. Ça, je ne sais pas si certains qui l'ont connu peuvent en attester. Et jamais je n'oublierai. Il y avait à un moment donné, il donnait les cours, je crois que c'était les cours sur Foucault, qu'il donnait donc dans une espèce de préfabriqué glacial à Vincennes encore. Il n'avait pas encore déménagé à... Ah non, pardon, c'était à Saint-Denis déjà, Saint-Denis. Et il y avait une vieille dame qui venait à tous les cours, qui était là, qui m'intriguait beaucoup, hein, qui prenait des notes. Et un jour, pendant une pause, je lui dis, je vous vois tout le temps là, qu'est-ce qui fait que vous venez à ce cours, ça vous intéresse? Elle m'a dit, non monsieur, mais vous savez, il m'aide à vivre. Je crois que c'est une des choses les plus belles qu'on puisse dire à un philosophe. Et puis il y avait cette confiance absolue chez Gilles, et qui répondait à quelque chose chez moi aussi, que la vie est plus forte que tout. Il y a quelque chose sur l'énergie vitale dans cette pensée qui est magnifique. Et puis j'ai beaucoup aimé le fait qu'il ait touché à tant de registres. Il a été dans la littérature, dans le cinéma, bien sûr chez les philosophes, Nietzsche, Spinoza. Et je me souviens que quand j'ai commencé à, parce que j'ai participé, vous le savez, aux négociations de paix, où j'étais très mal. Très très mal, c'était très dur de me forcer à parler à des personnes dont je pensais qu'ils étaient l'origine de mon malheur. Mais je l'ai fait parce que je voulais que ça s'arrange, je voulais qu'il y ait une véritable négociation. Et je lisais, et je lui en avais parlé, et ça, par exemple, ça lui donnait des fous rires. Mais en même temps, des fous rires bienveillants, hein, pas du tout ironiques. Et je lui ai dit, tu sais, toutes les nuits à l'hôtel, après une journée qui est très très dure, où je me force à négocier. Et je lis quelques pages de Spinoza. Et là, comme vous venez de l'entendre avec cette voix, il me dit c'est une bonne idée, tiens. Et ça s'est arrêté là. Donc vraiment, Gilles a été une rencontre magnifique dans ma vie. Et je l'ai connu à un moment où il travaillait sur un ouvrage majeur, je crois, qui est 1000 plateaux. Et je l'ai connu parce que Félix Guattari m'avait écouté dans une conférence où j'avais parlé, parce que j'avais travaillé là-dessus, sur les techniques de guerre des paysans dans les maquis palestiniens dans les années 30. Et il travaillait, je ne savais pas, à ce moment également sur ces notions de territoire et de déterritorialisation. Et Félix, que je connaissais, puisque Félix était très engagé pour la Palestine, l'avait appelé en disant, écoute, il y a quelqu'un, ça serait bien que... Et il m'a appelé en me disant, voilà, je voudrais... Bon, j'ai cru que c'était une farce, la première fois, au téléphone, un monsieur qui me dit, je suis Gilles Deleuze, ah bon, et je voudrais venir parler avec vous, ah bon. Et il est venu, et l'amitié est née immédiatement, hein, et jusqu'à son départ.
Alors je crois que Gilles Deleuze a été effectivement très important dans votre vision du politique. Elias Sambar, il disait qu'il fallait faire rhizome, c'était un concept qu'il avait inventé avec Félix Guattari, et qu'il fallait pas faire racine. Voilà. Vous dites dans la figure du Palestinien que vous êtes contre ce mot d'identité ô combien galvaudé, et que la seule identité qui vaille et sur laquelle on peut essayer de travailler... C'est l'identité en devenir, que nous sommes sans arrêt en Absolument, devenir. Oui. Et je voulais savoir si l'impression que j'ai en lisant vos ouvrages et en regardant le parcours de votre vie aujourd'hui, c'est que vous avez eu plusieurs cycles de vie. Il y a eu le cycle de vie où vous jouiez au tennis. Après, j'ai cru comprendre que vous aviez arrêté le tennis parce que vous jouiez au poker.
Oui.
Ce qui n'est pas bien.
Oui, mais j'étais très jeune, donc on peut mettre ça sur le compte d'un égarement adolescent.
Ensuite, la philosophie.
Oui, le droit, beaucoup de droit.
Le droit, et ensuite l'engagement, puis ensuite de nouveau la philosophie.
Oui, c'est-à-dire que la philosophie m'a toujours passionné. En ce sens qu'elle peut constituer un territoire de fusion de tout, et qu'elle permet à quelqu'un qui est engagé de faire à chaque fois, à chaque instant, quelques pas de côté et de réfléchir sur sa propre action. C'est-à-dire d'avoir un peu être et dans l'action et dans le recul par rapport à l'action. Je pense que si on le fait pas, on se perd, que ce soit en politique ou en autre chose, mais surtout en politique. Et donc, et comment être dans un engagement plein, même parfois en risquant sa peau, mais en même temps avoir toujours cette distance par rapport à ce qu'on est et à ce qu'on fait, pour chaque fois essayer de rectifier, non pas ne pas changer, heureusement qu'on peut changer de position, qu'on peut changer d'analyse au fil des années, mais de se dire qu'à chaque fois, on s'est déplacé un peu de côté, on a regardé le spectacle, on est revenu et on a rectifié les choses. Ça, regardez, la vie est incroyable. Je pense que c'est ce qui a attaché Jean Genet, que j'ai bien connu, aux Palestiniens. Le fait qu'il était à la recherche de ce type de territoire. Et Genet n'a été que chez des déplacés, des bannis, qui étaient précisément dans un territoire de l'entre-deux. Ils n'étaient plus chez eux, ils n'étaient pas de nouveau chez eux. Ils étaient entre, dans l'espèce de période intermédiaire, et physique, et temporelle. Et ça donne au peuple, aux communautés, aux individus qui sont dans ces situations. Ça donne le moyen d'un recal un peu décalé, sans que cela s'accompagne d'un arrêt complet de l'action elle-même. C'est-à-dire que vous êtes actif et vous avez ce regard. Je crois que c'est ça qui a attiré beaucoup Genet. Genet a passé sa vie, à mon avis, à chercher ce territoire d'où on pouvait faire les deux, c'est-à-dire être aidant et à côté des choses. Et donc... Tout cela a été extrêmement utile dans les rencontres. J'ai appris la même chose en regardant Godard diriger des tournages. C'est des choses qui peuvent sembler anodines, mais que vous pouvez relier à ce que je viens de vous lire sur ce déplacement. Les scènes étaient préparées. La caméra était placée. J'étais avec l'équipe derrière, bon, toujours des très petites équipes. Tout était prêt pour filmer. Il arrivait à la dernière seconde, et il déplaçait, mais de quelques centimètres, son objectif. Et tout d'un coup, on voyait plus la même chose. Pourtant, rien n'avait bougé. Vous voyez, c'est de ce déplacement-là que je veux parler. Donc, tout ça a été extrêmement enrichissant, absolument.
Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez participé aux négociations de paix, vous êtes un diplomate émérite, vous avez fait partie de l'OLP, vous avez travaillé avec Yasser Arafat, vous avez vécu des événements historiques, mais vous avez aussi entretenu avec le monde des artistes et des inventeurs de vie des liens très particuliers. Vous parliez de Genet. Genet a écrit ce texte bouleversant qui s'intitule Sabra et Shatila. Vous étiez là. Et à partir de là, d'ailleurs, vous dites dans votre dictionnaire amoureux que on peut être ami avec quelqu'un sans qu'il y ait des manifestations d'amitié, parce que Genet est un type un peu bougon qui renvoyait pas forcément l'amitié. Mais quand vous avez décidé d'écrire un livre qui s'intitule Le bien des absents, à qui vous l'avez montré? À Jean Genet.
Oui. D'ailleurs, le manuscrit annoté est d'une drôlerie absolue, parce que bon, et il y avait notamment un mot qui le rendait fou, qui était le mot. Vous savez, il m'a tellement bloqué sur ce mot que je m'en souviens même plus. Problématique.
Ben, le mufti duquel on attendait une réaction, Genet avait noté, je ne savais pas que ton grand dirigeant national était une casserole.
À cause du duquel.
Voilà.
Mais il y avait chaque fois qu'il entendait problématique, il devenait fou, il enrageait, etc. Je n'ai plus jamais, même inconsciemment, osé utiliser ce terme. Il me disait qu'est-ce que ça veut dire et j'avais pas de réponse. La problématique de je ne sais quoi, etc. Et c'est faux. Mais Genet avait une relation très très forte avec nous. Mais je crois que bon, il avait une relation exceptionnelle avec Leïla Shahid, beaucoup plus forte qu'avec moi. Mais je disais une fois à Leïla d'ailleurs, je crois qu'il n'a jamais eu d'amis Genet. Il nous aimait, mais il n'avait pas d'amitié parce que Genet était. J'ai jamais rencontré une solitude aussi absolue. Jamais croisé une solitude comme celle de Genet. Donc il avait des attachements. Il nous aimait beaucoup, mais nous n'étions pas ses amis. Il n'avait pas d'amis. Il était seul.
Ses amis étaient devenus les frères palestiniens, car il s'est passé quelque chose de l'ordre d'un attachement symbolique, mais aussi réel.
Il y avait une solidarité, il y avait un attachement, et il a été très très loin. Il leur a offert le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un peuple. C'est ce livre, Le Captif Amoureux, qui est une splendeur. On peut pas faire de plus beau cadeau à un peuple que de lui donner un tel ouvrage. Mais ils étaient pas ses amis. Il était seul, même parmi eux. Il était avec eux, on le faisait rire, on le touchait, il était ému. Il nous aimait, mais nous n'étions pas ses amis. Parce que, avec Genet, quand on le connaissait un peu, et là, il a été de mon avis d'ailleurs, c'était quasiment joué, cette question de la solitude. C'est terrible. C'est terrible, c'était quasiment joué et irréparable. Mais alors, il a construit plein de choses autour, mais il était seul, il était. À mon avis, moi, je n'ai pas rencontré d'une personne qui soit aussi seule.
Et vous, Elias Sambar, justement, à l'intérieur de ce dictionnaire amoureux de la Palestine, on s'aperçoit que vous n'avez jamais été seul, et ce, depuis la petite enfance. Vous aviez une famille très aimante, vous aviez une famille très élargie, vous faisiez tous en commun les mêmes choses, bien manger, bien se promener, aller à la messe, car vous êtes d'origine chrétienne.
Oui, c'est vrai.
Et
c'est
que tout ce collectif vous a peut-être protégé, justement, d'une certaine douleur et d'une
souffrance.
Non seulement
protégé, mais vous savez, mais ça, beaucoup d'exilés vous le diront, qu'ils soient palestiniens ou pas. Dans l'exil, les adultes ont l'illusion que les enfants ne voient pas la peine. Qu'ils cachent leur peine parce qu'ils font semblant comme si la vie, pour les préserver et pour les protéger. Et ils décuplent d'affection et de soins vis-à-vis des enfants très très souvent pour les protéger. Je ne dis pas que mes parents m'ont aimé uniquement pour m'épargner l'exil, mais il y a quand même un plus qui est un plus de protection. Et vous savez, un enfant, quand il est aimé, il a toutes les armes possibles et imaginables pour affronter la vie. Ça se joue aussi là. Et c'est vrai qu'on nous a beaucoup armés pour ça. On a été, je dis toujours nous, parce que c'est des choses dont je parle souvent avec des amis qui ne sont plus des enfants que moi et qui ont vécu un peu le même parcours. On a été incroyablement aimés. Pour tenir le coup. On a tenu le coup. C'est pour cela que très, très, ça peut être paradoxal, mais ça ne l'est pas. Il y avait la peine, mais il y avait énormément de rire dans l'exil. Il n'y avait pas que de la peine. Il y avait beaucoup, beaucoup de rire.
Est-ce que cette identité en devenir d'être palestinien, Elias Sambar, a revêtu au cours de votre existence plusieurs significations?
Certainement, mais fondamentalement une signification, je dirais, originelle, mais que j'ai reconstruit graduellement moi-même, et qui est la pluralité. J'ai découvert petit à petit à quel point ce qui s'est perdu était pluriel et non pas monolithique, à quel point c'était une multitude de couleurs et non pas une chose monochrome. Et aujourd'hui, toutes mes réactions par rapport au fondamentalisme est basée sur cette idée. Je veux dire, je n'aime pas les identités monochromes et je pense qu'elles ne doivent pas exister. Et quand les gens pensent qu'ils n'ont qu'une seule identité, ils s'illusionnent et pensent qu'ils se protègent ainsi par rapport à la diversité de la vie. Donc je crois que c'est la pluralité que j'ai redécouvert, mais que je n'ai pas inventée, qui était déjà là. Mais petit à petit, j'ai retrouvé des éléments on est multiples. Et c'est ça qui est formidable. Quand je vous disais tout à l'heure, aller dans le monde, vous pouvez pas aller dans cette circulation, vous ouvrir à la vie si vous n'êtes pas pluriel. Vous ne pouvez pas. Sinon, vous êtes dans le ressentiment et une espèce de nostalgie pathologique, quasiment. Et alors là, nous sommes au contraire dans une très très belle pluralité et ça a beaucoup aidé. Mais tout cela s'est fait aussi parce que j'ai eu la chance, hein, ça arrive, de c'est assez incroyable, aujourd'hui je peux le dire. J'ai toujours travaillé avec des gens que j'aimais beaucoup. J'ai jamais, même professionnellement, quand nous avons fait la revue palestinienne, j'avais une magnifique relation avec Jérôme Lindon. Gilles Deleuze était là. La rédaction était composée d'amis intimes. Et c'est un luxe. C'est un très grand luxe. Quand vous êtes dans des rapports de travail, dans lesquels vous n'éprouvez pas le besoin de prouver quoi que ce soit à ceux qui travaillent avec vous. Et eux non plus n'ont rien à vous prouver. Alors c'est d'une harmonie très très étrange et très belle. Et ça a été une chance. J'aurais pu tomber, on choisit pas toujours les conditions dans lesquelles on travaille, mais j'aurais pu tomber sur des conditions différentes. Mais là, ça a été la chance. Mais en même temps, je me dis peut-être que nous étions essayés plusieurs à chercher cela. Et finalement, qu'il n'y avait pas d'hasard, quoi. Que si ça existait, c'est parce que nous l'avions aussi voulu que les relations soient ainsi.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez Elias Sambar et son choix musical, vous avez choisi, et c'est une très bonne idée, John Coltrane, My Favorite Thing.
أسرج الخيل لا يعرفون لماذا ولكنهم أسرج الخيل في السهل كان المكان معدا لمولده تلة من رياحين أجداده تتلفت شرقا وغربا وزيتونة قرب زيتونة في المصاحف تعلي سطوح اللغة ودخانا من اللازورد يؤثث هذا النهار لمسألة لا تخص سوى الله آثار طفل الشهور المدلل آثار يندف قطنا على شجر اللوز آثار يلم خبيزة لفناء الكنيسة آثار أرض لليل السنون ولامرأة تستعد لصرختها في البراري وتمتد في شجر السنديان.
Nous venons d'entendre la voix de Mahmoud Darwish, le poète, l'immense poète dont vous avez traduit tous les textes. Elias Sambar, ça, ce qu'on vient d'entendre, c'était un extrait d'un récital qu'il a donné, et vous y étiez, au Théâtre de l'Odéon en 2007. Vous avez connu Mahmoud Darwish dès 1967.
71.
Vous en parlez d'ailleurs dans un numéro spécial d'une très bonne revue qui s'appelle la revue Europe, oui, qui paraît ces jours-ci et qui est consacrée à Mahmoud Darwish. Et vous dites, votre article s'intitule « Maintenant, tu es toi ». Et vous dites, j'ai avant de le lire commencé par entendre parler de lui comme membre d'un groupe venu du trou noir, de la noyade de la terre natale disparue, évanouie derrière nous après notre expulsion de nos demeures et notre remplacement par ceux qui prétendaient rentrer récupérer leur chez eux au terme d'une absence deux fois millénaire. C'était en 67. Et puis ensuite, il s'est appelé lui-même poète de la résistance et là a commencé un compagnonnage intellectuel, sensuel, j'allais presque dire, métaphysique, très profond entre vous.
C'est surtout une histoire d'amitié, au sens très très fort du terme, et une histoire de résonance. Il y a une réalité objective, qui est la qualité de cette œuvre, qui est fabuleuse. Mais il y avait aussi le fait qu'il y avait une sorte de complicité très très forte entre lui et moi, et qui n'était pas une complicité nationale. C'était pas que nous venions, que moi j'étais né dans cette ville qu'il a adorée, où il a vécu, qu'il y avait la Galilée, ainsi de suite, ni que le fait que je traduisais au fur et à mesure ces recueils. Il y avait un écho, il utilise beaucoup les échos dans ces poèmes, il y avait des résonances entre nous, et qui sont un peu mystérieuses. Gilles Deleuze, dont vous avez nous a fait écouter quelques passages de l'abécédaire, dit des choses très très belles à la lettre A au mot amitié, où il parle des sortes de séduction qu'on ne comprend pas, et c'est sûr qu'il y avait un peu tout cela, mais il y avait une complicité très forte. Et également cet amour de l'horizon et non pas de l'étroitesse, hein, de cette peur et ce rejet de toutes les choses étroites, l'ouverture et l'ouverture au monde. Et puis encore une fois, comme je le disais pour Gilles Deleuze, il y avait le rire. Je constate aujourd'hui que dans toutes mes grandes amitiés, le rire a été fondamental. Ça a été une des clés fondamentales dans nos rapports. Mahmoud a été une merveille par rapport et à la littérature arabe, par rapport à la poésie tout court. Et il a beaucoup souffert du fait qu'à période donnée, on l'a un peu enfermé dans son passeport. C'est-à-dire, on disait.
Il détestait d'ailleurs qu'on dise de lui qu'il était le poète palestinien.
Il est pas poète palestinien, il est poète de Palestine, ce qui est tout à fait autre chose. Le terreau est palestinien, mais il est poète tout court. Je veux dire, il n'y a pas de nationalité au poète, à mon avis. Mais au bout du compte, la chose s'est bien installée. Et il a, à partir de son séjour français, d'ailleurs, qui a été un moment marquant dans l'évolution de l'œuvre. Elle a pris une portée métaphysique, comme vous disiez, et universelle, magnifique. Quand il a commencé à expliquer qu'il était le poète de Troie par rapport à l'Iliade et à l'Odyssée, hein, de la ville de Troie, et qu'il était troyen, et qu'il avait été, qu'on ne connaissait que les œuvres des vainqueurs, l'Iliade, mais qu'il était certain qu'un poème avait été composé, une épopée, par les Troyens eux-mêmes, et qu'il avait la charge de ressusciter ce poème que l'on croyait disparu. Et il y avait dans ce choix, déjà très très beau en soi, il y avait également l'idée que nous n'avons jamais été dans la défaite, nous étions dans la perte, et que ça n'est pas du tout la même chose. Et la perte, encore une fois, je reviens à ce que je disais au départ, la perte vous pousse au dépassement. La défaite est stérile et il n'en sort plus rien. Et ça, c'est un des thèmes sur lesquels on était très, 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 comment dire, qui nous touchait beaucoup et sur lesquels on a beaucoup fonctionné avec un peu ces idées, y compris dans nos rapports, pas simplement dans le choix politique ou dans les choix philosophiques, mais également dans les choix humains, hein, dans les relations humaines. Et puis surtout, c'est un poète qui a, à mon avis, maîtrisé le chant. Vous savez, je relis, bon, j'aime, J'aime beaucoup le fait qu'il aimait les traductions que j'avais faites. Mais quand je les relis, à chaque fois, je me dis, bon, il faut les refaire. Vous voyez, parce que quoi qu'on fasse, on peut pas faire tout traverser. Malheureusement, c'est comme ça. Toutes les traductions sont. Et c'est un poète immense et surtout, qui avait un don de déclamation de ses propres poèmes. Qui
et d'ailleurs, était... quand il faisait des concerts, c'était comme une sorte de rocker. Les foules je pense que c'était venaient un très grand... pour oui. essayer de le toucher.
Je pense que c'était un très, très grand chanteur.
Une sorte d'idolâtrie, y compris.
Et hier, nous étions d'ailleurs avec la revue Europe dans un colloque. Et j'ai dit que c'est un homme qui a écrit des chansons et des chants. Des chants épiques et des chansons qui étaient des petites pièces ciselées. La chanson est là tout le temps. Et le chant est là, avec le souffle. Et ce qui est magnifique chez lui, c'est quand il croise chanson et chant. Et qu'on a les deux registres. C'est dans les grandes pièces. Et les deux grandes pièces qui ont commencé... D'ailleurs, Evita Trezzi, vous l'avez connu, vous l'avez invité plusieurs fois. Une des premières grandes pièces s'intitule « C'est une chanson ». Alors que c'est un chant. C'est une pièce énorme. Mais en même temps, le « c'est une chanson » signifie « ça n'est qu'une chanson ». Et vous voyez un peu, encore une fois, ce recul, comme je vous disais, vous êtes dans la chose et un peu à côté d'elle.
Alors vous savez, Elias Samba, dans cette émission, on demande à une personne qui connaît bien le travail de l'invité de s'exprimer. Nous avons souhaité solliciter l'avis d'un ancien ambassadeur d'Israël en France, qui est historien, qui s'occupe comme vous d'art contemporain. D'ailleurs, vous allez vous retrouver sur ce terrain. Vous avez deviné de qui je veux parler. Il est auteur de très nombreux livres. Les derniers s'intitulent « Dites sur la guerre » et « Dieu, mode d'emploi ». Il s'agit d'Élie Barnavi. Écoutez ce qu'il dit de vous.
J'ai rencontré Elias il y a de nombreuses années. Je pense que la première fois, c'était en Andalousie, à Grenade, pour un colloque. Et nous avons... immédiatement sympathisé. Et depuis, on s'est vu souvent. Moi, j'ai eu des responsabilités. J'étais ambassadeur à Paris et lui à l'UNESCO. Mais on a toujours trouvé chacun pour son pays qui ne sont pas, comme vous le savez, ils ne vivent pas dans une harmonie parfaite. Mais nous avons toujours trouvé moyen de nous parler entre honnêtes hommes et j'ai toujours eu de la considération, de la sympathie pour lui. C'est un intellectuel, un vrai, un historien, comme moi. Vous savez, un homme n'est pas dissécable. Hein. Il faut le prendre tout entier avec ses points forts et ses points moins forts, avec sa tête et son cœur. J'ai lu pas mal, Elias, le plus souvent avec plaisir et profit. Et voilà, si la paix entre Palestiniens et Israéliens dépendait de lui et de moi, je pense qu'elle serait faite depuis longtemps. Cela fait longtemps que nous ne sommes pas vus et nos conversations me manquent. Si j'avais une question à poser à Elias, je lui demanderais comment il va, s'il garde quelque espoir pour une solution raisonnable au conflit israélo-palestinien. Ou bien si comme tant de mes compatriotes, Il a perdu tout espoir qu'un jour, de notre vivant, ce conflit sera résolu. Je lui demanderai comment il envisage cela, vu la montée des périls, le durcissement de la politique, la crise de leadership que nous éprouvons des deux côtés de la ligne verte en Palestine. J'aurai beaucoup de questions à lui poser. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'y répondre. Et surtout si sa position lui permet. J'aurais bien aimé être là à l'émission pour lui serrer la main et peut-être après prendre un verre ensemble et parler de tout cela tranquillement.
Alors voilà des tas de questions que vous pose Élie Barnavi. Élie Barnavi fait partie de ce mouvement pour la paix. Élie Barnavi se bat avec des intellectuels en Israël dans ce mouvement La Paix Maintenant pour la reconnaissance de l'État palestinien. On a l'impression qu'effectivement avec l'élection de Donald Trump les choses se compliquent, même si les positions de Donald Trump paraissent un peu compliquées elles-mêmes et changeantes. Mais c'est vous le diplomate, c'est vous Elias Sambar qui avez participé à des négociations plus qu'importantes, vous avez été acteur. Vous avez participé à ces fameux accords d'Oslo. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, comme le dit avec cette espèce de voix un peu mélancolique Elie Barnaby, la chose est enterrée et que nous ne verrons jamais de notre vivant une paix entre les deux peuples et un État palestinien.
Je ne sais pas si nous la verrons, mais en tout cas, je pense qu'elle viendra. Peut-être pas de notre vivant, mais elle viendra. Je crois qu'il serait tout à fait presque sot et imbécile de nier la difficulté et l'impasse actuelle. Hein. C'est vraiment, la situation est bouchée, tout peut porter au pessimisme, etc. Mais moi j'ai la conviction, non pas par dogmatisme, au contraire, qu'il faut continuer, qu'il faut pas céder. C'est précisément dans ces moments qu'il ne faut pas céder et qu'il faut continuer. Continuer pourquoi? Parce que souvent je dis à des personnes qui me disent « mais écoute, c'est fichu, pourquoi ?» Je dis « mais vous savez, on ne s'engage pas dans une cause après avoir fait une étude de marché et de faisabilité pour savoir si ça va marcher ou pas. En règle générale, quand vous entrez dans un engagement, tout le monde vous dit « le rapport de force est tel que tu es un pauvre fou, naïf et qui ne réalise pas dans quoi tu t'engages. » En tout cas, c'est toujours du contre-courant. Maintenant, c'est vrai que parfois, nager à contre-courant est beaucoup plus dur que nager à contre-courant dans d'autres périodes. Mais c'est sûr que la seule chose qui reste à faire, c'est de ne pas céder. Précisément parce que ça va mal. Et ne pas tourner le dos. Et je ne suis pas en train de jouer aux soldats héroïques, hein, pas du tout, parce que c'est ma conviction. Parce que dans cette situation, l'un meurt, l'autre mourra aussi. Personne ne s'en tirera. Les destins sont absolument liés. Et surtout parce que je crois en une valeur qui n'est pas celle des paix signées dans les traités. Et bien sûr, les traités sont importants. Il faut qu'il y ait des paix organisées sur le plan juridique, sur le plan des principes, sur le plan éthique, tout ce que vous voulez. Mais au bout du compte, la seule chose, la seule garantie, est celle d'une réconciliation et pas simplement de la paix. La réconciliation est la seule forme supérieure de paix, d'un état de paix, parce que elle remplace la paix dans des traités, dans du papier, et dans des rapports de force, par une paix dans les cœurs. Et celle-là, c'est la plus forte. Moi, je pense qu'il faut continuer. C'est vrai que c'est pas facile en ce moment. C'est vrai qu'il y a des jours où on se dit « oh là là, encore et encore et encore ». Qui réalise aujourd'hui que nous avons commencé à négocier à 25 ans, un quart de siècle de négociations, pas de conflit, le conflit est là 100 et quelques. Un quart de siècle de négociations et regardez dans quelle situation nous sommes. Mais on peut pas partir. On ne peut pas partir, ça serait criminel même de partir. Il faut continuer, tenir tête et se dire que, en tout cas, s'il ne fallait pas aller à contre-courant, on n'aurait pas eu besoin de s'engager. On s'engage toujours à contre-courant, jamais dans le courant. Dans le courant, vous faites carrière. C'est à contre-courant que vous résistez, pas dans le courant.
Mais je crois que votre initiative, Elias Sambar, en tant qu'ambassadeur à l'UNESCO, de faire en ce moment même à l'Institut du Monde Arabe à Paris donc cette préfiguration d'un musée qui aura lieu là-bas en Palestine, ce musée en exil fait partie justement peut-être de cette initiative de réconciliation et pas seulement de paix.
D'une part, et d'autre part, c'est un pari sur la vie. C'est-à-dire, quand j'ai commencé à parler de ce projet, des interlocuteurs devenaient très très perplexes en disant « mais où est-ce qu'il vit ?» Il réalise pas ce qui se passe. Au contraire, c'est parce qu'on a lancé l'initiative qu'on a eu un nombre de réponses absolument incroyables d'artistes, de très grands artistes. La collection est magnifique, j'espère que vous aurez l'occasion de passer la voir. Et quand j'ai été voir Jacques Lang, parce qu'il me fallait un lieu également pour stocker, en attendant, j'avais pas la place. En 5 minutes, il m'a même pas dit « je vais réfléchir, je vous réponds demain ». En 5 minutes, il a dit « je marche ». Aujourd'hui, la collection est dans les réserves de l'Institut du Monde Arabe. Et avant l'ouverture, il y a 2 jours, nous avons fait une conférence de presse commune. Nous avons lancé un appel pour ouvrir maintenant les dons à des artistes du monde, pas simplement en France. Le soir même du vernissage, il y avait 8 toiles, 8 œuvres qui étaient données. Des gens qui ont dit « ah bon, c'est magnifique ». Donc il y a Ernest Pinault. Ernest a été la cheville ouvrière de ce projet. Et surtout, nous étions très inspirés par une initiative qui a eu lieu du temps de l'apartheid par rapport à l'Afrique du Sud. Parce que Ernest avait, c'est comme ça que j'ai eu l'idée. Ernest avait lancé une initiative, à savoir que quiconque est opposé et solidaire du combat contre l'apartheid, contre le racisme, offre une œuvre. Et c'est comme ça que nous avons cette centaine d'œuvres aujourd'hui, et à mon avis, le nombre va aller croissant. Nous n'aurions jamais eu les moyens matériels de les acheter, hein, ces œuvres. Mais donc, il y a un acte de générosité magnifique. Nous avons ouvert la collection également à la photographie, à la bande dessinée, et pas simplement aux peintures, aux gravures. Et là, vous verrez, nous montrons un échantillon, pas toute la collection, à l'Institut du Monde Arabe. Elle voyagera après, et j'espère, très vite, commencer à lancer une sorte de concours, également de solidarité, avec de très grands architectes, pour voir quels seraient les plans de qui nous offrirait éventuellement les plans de ces bâtiments. C'est un musée qui sera un lieu de paix. Un musée peut être un lieu de réconciliation. L'art ne peut être qu'un territoire de paix, car quand il ne l'est pas, il tourne à la propagande. Ce n'est plus de l'art, ça devient de la propagande. Et là, nous sommes très très heureux de voir le résultat un peu de cette initiative.
Eh bien, ce n'est qu'un début. Donc, ce musée de l'exil, on peut déjà en voir des toiles en ce moment même à l'Institut du Monde Arabe. L'exposition vient juste de commencer.
Dure un mois.
Et puis j'ai dit en début d'émission que vous aviez beaucoup de qualités. Je pense que les auditeurs ont compris toutes les qualités que vous avez. Mais il y en a une qu'ils ne connaissent pas. Donc on va se quitter en écoutant une de vos recettes, Elias Sambar, parce que c'est l'heure, hein, 20h55, c'est l'heure de la soupe. Voici la recette d'Elias Sambar, Hadas bi Hamoud. Soupe de lentilles au citron et aux blettes, ingrédients pour 6 personnes. 200 g de lentilles vertes, 2 cuillères à soupe de farine, 500 g de blettes, feuilles et tiges, un oignon, 2 citrons, 4 gousses d'ail, un bouquet de coriandre, 2 cuillerées à soupe d'olive, sel, poivre, coriandre en poudre. Après, vous inventez, mais vous allez m'inviter.
Absolument. Une dernière chose, si vous avez une minute. Vous savez, Darwish était un très grand gourmet également. Et nous avons souvent fait des expériences, nous avons fait des virées, si vous voulez, culinaires. Et il avait une chose très très jolie. Et avant d'aller au repas, il me disait, tu sais, commençons par décrire toi et moi ce que nous allons manger. Comme ça, nous allons préparer nos appétits. Alors voilà.
Ben moi, soupe de lentilles, ça me va très bien. Merci beaucoup Elias Sambar. Donc, exposition à l'Institut du Monde Arabe, dictionnaire amoureux de la Palestine, la revue Europe Mahmoud Darwish, figure du Palestinien chez Gallimard. Merci beaucoup à tous. On n'a pas eu le temps de passer le dernier disque, mais bon, c'est pas grave, on va se faire engueuler. Merci aussi à toute l'équipe de L'Heure Bleue. Merci à Véronique Barnet qui a réalisé cette émission, à Élodie Royer, Anne-Sophie Dazard et Arthur Daniel qui l'a préparée. Et puis, grosse actualité venue du Moyen-Orient avec la sortie d'un film très passionnant de Mahaj, Personnel Affaires, sorti le 1er mars, dont nous reparlerons, et de Maï Masri, 3000 nuits, un film impressionnant et novateur parce qu'il se passe à l'intérieur des prisons des détenus en ce moment, des détenus palestiniens sur le territoire israélien. Projection samedi 4 mars au ciné Nomade de Villetaneuse. Et puis très vite, Un Islam pour mémoire consacré à Abdel Wahab Medeb. Projection mardi 7 mars prochain au cinéma Les Trois Luxembourg. Merci à toutes et à tous. Et maintenant, nous allons nous quitter en écoutant la pub.